C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Antunes, le social media manager de Disneyland Paris. Salut Sébastien.
Bonjour Thibaut.
Tu vas bien ?
Très bien, merci.
Je suis très content de t'accueillir. Merci d'être avec nous. Merci d'être descendu jusqu'à Lyon. Ou monté, je sais pas dans quel
c'est
sens ça marche.
Non, non.
Merci à toi. Hein. Il nous vient donc de Marne-la-Vallée, vous aurez compris. Et pas de Paris, ça nous change. Alors en préparant cet épisode, Sébastien, voilà, je me disais que tu avais vraiment un job de rêve. Disneyland, Paris, les amis, tu dois rendre jaloux un paquet de CM et de SMM. Est-ce que, alors, question comme ça, juste pour dégrossir, hein, est-ce que tu as un accès illimité à toutes les attractions de Disneyland Paris ou pas?
Oui, oui, on en profite, on en profite bien.
Terrible. Ouais, ça,
mais
ça
on le voit sur un, sous un autre prisme quand on est social media manager, ouais.
Ah, c'est-à-dire que tu penses contenu.
Eh oui.
Terrible. Ah oui, du coup, c'est beaucoup moins drôle. Plus sérieusement, aujourd'hui, eh ben, j'ai envie qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi ? Bah, il faut se rendre compte que Disneyland Paris, c'est un énorme carton sur à peu près toutes les plateformes. Je vous donne quelques chiffres. Vous qui nous écoutez, 2,6 millions d'abonnés sur Instagram. 5,2 millions d'abonnés sur Facebook. 712 000 abonnés sur TikTok, les chiffres sont fous, on pourrait parler des autres plateformes mais je m'arrête là. Hein. Beaucoup de choses donc dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle stratégie, création de contenu, évidemment de la success story de Disneyland Paris sur TikTok, énormément de trucs donc j'espère que t'as un petit peu de temps devant toi parce que
yes, avec plaisir.
On a un programme, bien. Allez, on va commencer par le commencement, ça fait donc 14 ans que tu travailles pour Disneyland Paris,
bientôt,
c'est ça
ouais, c'est ça.
Bientôt 14 ans. 14 ans.
C'est dans... assez fou, ouais, de ce... un peu un ovni dans l'écosystème des social media, mais yes, c'est à Disneyland Paris, on a en particulier d'avoir quand même des employés, donc on appelle les cast members, qui ont une ancienneté assez forte, et voilà, c'est plaisant de bosser dans ces conditions avec un super terrain de jeu qui est les parcs. Et voilà, sous le prisme des réseaux sociaux, ça
14
rend la
ans,
chose
tu fais quasiment partie des dinosaures du digital, hein, ça y est, avec ton jeune âge là.
Voilà, j'ai fait des sites en flash, voilà, des choses super sympas.
On a parlé, ouais. on a parlé un peu geekery tout à l'heure, c'était bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu es tombé sur ce job de rêve et peut-être les différentes fonctions que tu as exercées? Est-ce qu'aujourd'hui tu es social media manager, mais j'imagine que tu n'es pas arrivé comme ça.
Effectivement,
hein.
Ouais, donc j'ai commencé en stage, toujours sur les problématiques digitales et CRM. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai pu évoluer sur des métiers toujours dans le digital. J'ai fait du SIA, SIM, référencement payant et naturel de nos sites Disneyland Paris. Ensuite, j'ai eu la chance de faire, donc je disais, des sites, des mini-sites à l'époque, mini-sites en flash.
C'était pour Disneyland Paris.
Exactement, okay. Ouais, pour faire la promotion du 20e anniversaire notamment. Donc, il y a déjà 10 ans. Et nos saisons emblématiques comme Halloween et Noël. Voilà, donc c'était un moment sympa. On a aussi, enfin, j'ai eu aussi la chance de faire des premiers concours. Enfin, j'ai fait un concours pour le lancement d'une saison sur la Reine des Neiges en 2015. Un premier concours UGC qui était vraiment super engageant sur demander à nos communautés en fait de twister les paroles de Libérer Délivré pour exprimer leur souhait de venir au parc en vidéo. Ouais. Donc, quand même une mécanique super engageante. Ouais. Et on a eu des choses vraiment magnifiques. Donc c'est aussi ça qui fait la richesse de la marque, c'est l'engagement de nos communautés qui est quand même assez fou.
Ouais, et ça tu vois là, alors c'est intéressant de voir le parcours, la progression. Donc au début full digital, ouais. Et puis après évidemment,
et ensuite j'ai connu voilà le lancement de Facebook. Je travaillais pas directement sur Facebook à l'époque, j'étais plus pour des problématiques CRM. Donc création de contenu pour nos newsletters, nos emails qu'on envoie à nos clients prospects.
Mais t'étais là quand le compte Facebook de Disneyland Paris était créé. Aujourd'hui 5,2 millions d'abonnés, c'est incroyable. aujourd'hui, c'est quoi exactement ton job? On a dit social media manager. Alors forcément, vous aussi, vous êtes peut-être social media manager de l'autre côté de vos écouteurs. J'aimerais qu'on compare un petit peu. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour toi?
Exactement? Tout d'abord, on est une équipe qui gère à la fois la gestion de la production de contenu et la gestion de contenu pour le social media et également pour le CRM. Et on travaille sur un scope qui est pan-européen, international. Puisque du coup on va gérer vraiment l'animation de nos communautés, le CRM sur nos marchés cibles européens mais aussi à l'international.
Alors ça c'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure tu parles de social media et de CRM. Je crois comprendre que chez Disneyland Paris les deux sont très imbriqués ensemble.
Voilà,
comment
on
ça
essaye
se fait
de faire c'est historique et on essaye de faire voilà, moi j'aime bien stimuler aussi les synergies entre la production de contenu qu'on va faire sur la partie social et les newsletters qu'on va envoyer à nos clients puisque finalement la frontière elle est pas si nette que ça et la newsletter c'est un canal qui peut paraître un peu vieillissant mais pour autant qui garde sa puissance et en fait aujourd'hui on a du contenu sympa qui est produit sur le social. Bah pourquoi en fait ne pas faire de synergie avec la partie newsletter et des fois voilà il y a des super mécaniques aussi des mécaniques qu'on peut soutenir en newsletter qui peuvent vivre sur le social et inversement donc voilà.
Est-ce que aussi le fait d'avoir cette dynamique social plus CRM ça vous permet l'équipe social media de Disneyland Paris d'avoir une vue plus précise peut-être des communautés auxquelles vous adressez?
Oui, après on peut effectivement ça nous permet d'avoir une vue plus précise et notamment donc, moi plus spécifiquement sur mon scope on est amené à gérer la communauté passe annuelle donc nos membres qui ont une carte à l'année à Disneyland Paris et donc effectivement le fait de pouvoir gérer la communication à la fois sur les réseaux sociaux et sur le CRM ça permet vraiment d'avoir une vue globale finalement on fait du relationnel avec eux, on le fait juste de façon un petit peu différente sur CRM et le social. Et typiquement je prends un exemple, un email anniversaire, on fait un email anniversaire qui est impactant, le visiteur il va faire un screenshot de son email, il va dire et il va communiquer sur les réseaux en disant regardez Disneyland Paris m'a souhaité mon anniversaire. En fait, on voit souvent des parallèles qui sont faits, voilà, où on réutilise aussi beaucoup du UGC sur nos communications newsletter. On essaye d'avoir
Je te pose autant de questions tout de suite là-dessus parce que ça je trouve que c'est assez atypique.
C'est atypique,
bien souvent ce sont deux services qui gèrent d'un côté la newsletter, le CRM, d'autre côté le social media, mais je vois très bien ce qui peut jouer dans la finesse de la relation que tu tisses avec les gens.
Pour moi le social va vraiment permettre de dynamiser un petit peu ce qu'on fait sur nos communications newsletter en apportant du contenu qui soit toujours plus dans les codes d'aujourd'hui et donc du coup d'être toujours plus pertinent et engageant aussi sur les newsletters.
Est-ce que vous produisez vos contenus en interne ou est-ce que vous bossez avec des créateurs de contenu, des agences?
On bosse avec des agences. La proportion, on bossait beaucoup avec des agences, on bosse toujours avec des agences, mais en proportion plus forte il y a quelques années. Sur les dernières années, et avec un coup d'accélérateur en après Covid, on s'est quand même pas mal musclé en interne et structuré en interne pour avoir un petit pôle de création de contenu qui nous permet vraiment d'être agile et réactif sur de la production de contenu dans les parcs. Je vous donne un exemple, demain il neige. En fait, ça nous permet d'être au plus réactif et d'être au matin au pied levé dans les parcs et prendre de la story, du TikTok, de la photo pour nos différents réseaux sociaux de la neige au parc. Et on sait que on vit l'instant. Ce que nos communautés cherchent, c'est vivre d'une petite fenêtre. Nous, on est la fenêtre sur le parc. Donc c'est le studio interne qu'on a monté nous permet d'être agile et nous permet d'avoir une fenêtre un peu plus en live que solliciter des agences en permanence.
Oui, où t'as forcément toujours un peu de délai, etc.
Exactement.
Là, vous êtes au cœur.
Là, on est au cœur du parc. Au cœur de la magie. Ouais.
Et tu me disais en off qu'il y avait un avant et un après pandémie. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avant qu'on enregistre. Tu me parlais de travel revenge et j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi tu me parlais tout à l'heure.
On est dans une période post-Covid où les consos ont vraiment envie on a vécu des confinements, ça n'a pas été facile. On est dans une période où on a envie de se faire plaisir. On a été privé de voyage et on a envie de revivre des moments ensemble, des moments voilà, des moments qu'on ne pouvait pas vivre pendant le Covid. Voyager, se changer les idées, et voilà, Disneyland Paris, ça quand même coche beaucoup de cases sur toutes ces envies, et du coup effectivement on a quand même vraiment,
parce que c'est vraiment ça, Disneyland Paris, c'est une destination voyage. C'est ça qui est très intéressant à comprendre dans la strate social media de Disneyland Paris, c'est que c'est pas que un parc d'attractions.
Effectivement, on est une destination vraiment de court séjour avec cet hôtel de parc. On est une vraie destination de court séjour comme peut être une destination short break, comme peut être voyage,
une station de Haute-Savoie,
ou un week-end à Londres par exemple.
Ouais, exactement. Ouais. Allez, j'aimerais qu'on plonge dans la stratégie éditoriale de Disneyland Paris. De but en blanc comme ça, quels sont les piliers de contenu de Disneyland Paris? Comment ça s'organise?
Alors, les piliers de contenu qu'on a de notre prise de parole en organique sur les réseaux sociaux, on a les temps forts de manière de Disneyland Paris. En ce moment, on est en pleine célébration du 30e anniversaire du parc. On lance régulièrement des nouvelles saisons.
Donc là, c'est un temps fort qui dure quasiment un an, ça.
Voilà, même plus d'un an. On est pour laisser un maximum de visiteurs la chance de pouvoir découvrir les célébrations. Donc là, on est sur la fin, effectivement, des célébrations du 30e anniversaire. On a aussi nos saisons récurrentes comme Halloween et Noël. Et puis, donc ça, c'est vraiment, on va dire, des communications temps fort. On a aussi, après, tout ce qui est en fait la mise en avant de nos assets, enfin, on va dire des parcs, des attractions, de nos spectacles quotidiens, des hôtels, de la partie food, merchandising. Donc voilà, tout ça fait un champ des possibles qui est assez riche en termes de prise de parole sur nos réseaux sociaux. Et puis après, il y a différents angles de traiter tous ces différents sujets. On peut l'axer vraiment nouveautés produits. On est vraiment focus sur le produit, du behind the scenes, la mise en avant des employés Disney, les cast members, et également la mise en avant des visiteurs, puisque on a la chance de pouvoir aller directement, on va dire, à la rencontre des visiteurs et de voir leurs réactions, de pouvoir interagir avec eux. Et tout ça, ça fait du beau contenu pour nos médias sociaux.
Je vois que tu le disais, j'ai vu en ligne qu'il y a énormément de contenu autour de la food. Et ouais, ça m'a intéressé, et spécifiquement, j'ai même vu qu'il y avait une highlight sur ce sujet. Quand tu es sur Instagram, boum, il y a une highlight food. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi typiquement ce genre de sujets sont clés pour le parc Disneyland Paris?
Le foot, ça fait partie de l'expérience globale qu'on va avoir quand on vient à Disneyland Paris. Quand on vient à Disneyland Paris, on est aussi un petit peu en mode régressif. On a envie de se faire plaisir. On a aussi envie de montrer aux autres qu'on est à Disneyland Paris. Donc, au travers de petits produits, de produits snacking, d'une offre food, on a envie de se faire plaisir. On a aussi envie de montrer aux autres qu'on est à Disneyland Paris et qu'on va manger quelque chose qu'on va pas forcément retrouver dans la vraie vie. Ça fait partie aussi de l'expérience, et c'est un des piliers qui est intéressant à mettre en avant aussi sur nos canaux officiels.
Comment est-ce que vous organisez? Alors, j'imagine que ce programme là, tu nous le résumes, mais j'imagine qu'il est tentaculaire, ce programme éditorial. Comment est-ce que vous vous organisez aujourd'hui? Est-ce que vous avez un outil qui vous permet d'y voir plus clair, d'organiser tout ça, vos prises de parole? Comment ça se passe?
On a un outil de programmation nous permet de faire nos programmations, nos différents posts sur les réseaux.
Tu peux nous donner un nom peut-être? On est signé avec personne. Hein. Est-ce que c'est un outil maison? Est-ce que c'est...
On utilise un outil d'une plateforme.
Il ne lâchera pas. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pour la partie programmation. Et ensuite, pour la partie, je dirais, organisation.
Après, on gère notre ligne édito on leverage des outils. On n'a pas d'outils spécifiques, d'accord, on va dire, pour...
Nous, de notre côté, on utilise Trello, qui est un outil qui nous permet de faire ça. Je sais que d'autres utilisent Google Drive.
Nous, on va utiliser de façon très, très primaire, les outils collaboratifs de Microsoft, qui nous permettent de
gérer un gros agenda, etc.
Exactement.
Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler des personas cibles? Avec une question pour toi, c'est... Est-ce que ces différents personas, vous les adressez spécifiquement sur certaines plateformes? En gros, est-ce que tu as des personas distingués d'une plateforme à l'autre, ou alors non, les personas de Disneyland Paris sont les mêmes et on les adresse partout? Quelle est la strate là-dessus?
Les personas en fait vont être représentatifs des visiteurs qui viennent dans les parcs Disney. Donc et après, effectivement, en fonction des différentes plateformes, on va avoir une stratégie qui va être un peu différente. On sait que forcément sur Facebook, on va être un peu plus mainstream, et on va avoir des tranches d'âge qui vont être un peu plus élevées. Donc peut-être plus targeter des parents sur Facebook. À l'inverse, sur TikTok, on va beaucoup plus être sur des profils jeunes adultes, TikTok, Instagram. Donc, on sait qu'on va avoir du contenu qui va être plus adapté pour des profils jeunes adultes qui viennent visiter les parcs.
Et j'ai vu que vous étiez sur Pinterest aussi. Vous êtes
exactement
partout, hein,
sur Pinterest.
Pinterest, ouais. Donc là, c'est autre chose. C'est peut-être quoi? C'est les travelers?
Sur Pinterest, on est, je pense, aussi sur, enfin, on est également sur du profil jeune parent qui va organiser ou aussi adulte, hein, mais qui viennent s'inspirer, qui viennent organiser leur séjour, leur visite au parc. Donc, à nous aussi de produire du contenu qui va être adapté. Donc, on peut avoir différents profils sur, voilà, des tips pour visiter Disneyland Paris en famille, les tops des attractions à sensations fortes pour des clients qui sont plus jeunes adultes, ou comment, voilà, passer une super visite entre potes à Disneyland Paris. Voilà, on va mettre à disposition du contenu, notamment sur Pinterest, où on est très axé quand même sur le moteur de recherche.
Ouais, bien sûr.
Donc, en fonction de ce qu'on va chercher, ça va être à nous de délivrer un contenu qui soit en adéquation avec les recherches des utilisateurs sur Pinterest. Mais majoritairement, on va être quand même sur des parents qui veulent organiser une visite dans les parcs.
Alors, on a parlé l'inédito, on a parlé persona, mais j'aimerais qu'on parle aussi de la tonalité, parce que la tonalité, elle est étonnamment, je dis étonnamment parce que c'est pas si évident, super constante d'une plateforme à l'autre et avec le temps, hein, de façon durable. Ça, quelle astuce tu peux nous donner ou donner à ceux qui nous écoutent pour rester à ce point constant dans sa prise de parole sur les réseaux sociaux? Comment vous vous organisez?
Il faut toujours garder à l'esprit son ADN de marque. Se dire que voilà, un réseau ne doit pas dénaturer, en fait, on va dire, l'ADN de marque, puisque on a aussi la particularité d'avoir une marque qui est, bah, une marque, on a quand même des communautés qui sont très engagées autour de la marque. Donc, le réseau ne doit pas dénaturer l'ADN de la marque. Mais si je prends l'exemple de TikTok notamment, TikTok nous a permis notamment de communiquer de façon différente, donc sous un angle, sous des prismes qui vont être différents, avec une tonalité des fois qui peut être pas forcément les tonalités qu'on avait l'habitude d'avoir, mais tout en gardant à l'esprit l'ADN de la marque. Ouais. Ça, c'est super important.
Et puis, Disneyland, c'est aussi, Disneyland Paris, pardon, c'est une prise de parole tournée vers l'international. Tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé aussi de destination travel, hein, clairement. Mm-hmm. Et sur Instagram, alors, l'exemple que j'ai le plus prégnant, hein, c'est que sur Insta, les contenus sont disponibles.
En français et en anglais.
En français et en anglais. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez? Parce que, alors là, je vois beaucoup d'enjeux spécifiques autour de ce sujet de la double langue. Pour en citer quelques-uns, le SMO, hein, social media optimization, faire en sorte que mes contenus y ressortent, mais aussi l'engagement communautaire, etc. Quelle décision vous décidez?
Ça va vraiment dépendre des plateformes, en fait. À chaque plateforme, sa stratégie. Sur Facebook, on a la chance de pouvoir avoir du contenu qui va être spécifique par langue et par marché. Donc, du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une stratégie qui va être la plus granulaire en fonction des marchés pour lesquels.
Donc là, vous travaillez deux langues, plusieurs langues parallèlement.
On travaille 8 langues. Ouais.
Donc 8 langues. Donc si vous allez vous connecter
sur Facebook au Portugal, vous aurez du contenu.
Des contenus qui viennent de chez vous, Marne-la-Vallée, mais traduits en portugais.
Voilà, en collaboration avec nos bureaux en Espagne, au Portugal, pour avoir aussi une partie de contenu qui va être dédié spécifique pour ces pays. Okay. Ouais, tout à fait.
Donc ça c'est super intéressant, mais ça, il y a que sur Facebook qu'on peut réellement pousser aussi loin le curseur. Sur Instagram,
après,
on est un peu plus
sur Instagram, effectivement, on est sur de la double langue, français anglais. Et après, on crée beaucoup de contenu et on s'appuie aussi sur nos cousins, les comptes Disney dans les différents pays, puisqu'on a un Disney UK, un Disney Espagne. Voilà, on a des comptes Disney dans les différents pays pour insuffler aussi du contenu Disneyland Paris sur ces comptes, qui nous permet aussi, en tant que marque Disneyland Paris, de vivre dans un écosystème Disney dans les autres pays. Complémentarité de nos canaux internationaux, notre compte Disneyland de Paris sur Instagram, par exemple. Ouais.
Et on va parler un peu plus profondément après de TikTok, mais sur TikTok, là, par contre, j'ai l'impression que le parti pris est franco-français. Est-ce qu'il y a un sujet de SMO pur et dur, donc de référencement au cœur de la plateforme qui est pris en compte?
Au lancement de la plateforme, on faisait du français-anglais. Après, on regarde aussi nos audiences. Et aussi comment fonctionne l'algorithme. Et sur TikTok, c'est vrai que l'algorithme va pousser le contenu auprès de l'audience auquel a été, enfin, auprès de l'audience du compte, je vais reformuler.
Il va davantage prendre en compte la localisation.
Exactement, là, il va prendre davantage en compte la localisation du compte. Donc, c'est-à-dire que comme le compte a été ouvert et est géré en France, on a vu que l'algorithme poussait, on va dire, en priorité, en grande majorité, un public francophone.
Ouais.
D'où le fait qu'on ait axé notre communication en français. Après, sur la même logique qu'on fait avec Instagram, on travaille en partenariat avec nos amis Disney dans les différents pays qui ont leur propre compte TikTok pour insuffler aussi, pour diffuser du contenu Disneyland Paris sur ces autres canaux.
Ok, alors si on parle production de contenu, tu le disais tout à l'heure, vous êtes super réactif sur vos contenus. On a effectivement quasiment l'impression de suivre le bulletin météo quand on suit. Quelle météo fait-il à Disneyland Paris? On a l'impression que c'est un peu la promesse hein, quand il neige, quand il fait grand beau, etc. Et vous en jouez aussi, j'imagine. Ça fait partie de l'expérience que je vis au parc. Hein. Je vis une expérience qui est aussi grandement outdoor, hein, en extérieur. Est-ce que vous produisez tout ça le jour même? Comment ça s'organise tout ça? Est-ce que tu as une armada de mecs avec des cams qui circulent dans le parc? Comment ça se passe?
Non, on organise, on va dire, notre production de contenu. Hein. Vraiment, on a une visibilité sur notre ligne éditoriale plusieurs semaines à l'avance, ce qui nous permet aussi de pouvoir planifier la production de contenu. Et ensuite, comme tu le disais, on n'est pas à l'abri d'événements qui puissent arriver, comme voilà, de la neige ou des choses qu'on n'avait pas forcément spotées, qui nous permettent. Et on a l'équipe qui nous permet d'être réactif sur place et de pouvoir couvrir du coup et d'être le plus pertinent au bon moment.
Et donc, vous avez une équipe à vous.
On a un petit pool de création de contenu dont une personne que j'ai embauchée l'an dernier qui fait vraiment exclusivement de la création de contenu.
D'accord. Donc voilà. Lui, son job, ouais, toute la journée, il est dans le parc.
On a fait ce parti pris de se dire on a investi dans une ressource, dans une personne qui nous permet de faire vraiment de la production de contenu réseaux sociaux à 100%. Donc ouais, c'est pour un annonceur, c'est quand même, on va dire, un parti pris qui est
assez inconfort,
qui est assez confortable. Ah
ouais, totalement. Hein.
C'est top. Ouais.
Comment est-ce que tu arbitres aujourd'hui, ou comment votre équipe elle arbitre entre anticipation, programmation de contenu quasi live, hein, parce que tu l'as dit, il y a des temps forts, il y a des rendez-vous dans un parc comme Disneyland Paris. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez une grosse programmation de postes qui vous permet de garder du flex pour improviser? Est-ce que c'est ça?
Ouais, c'est ça. On a une stratégie de contenu froid, contenu evergreen, voilà, la mise en avant des parcs, des attractions, des restaurants, boutiques, des spectacles qui sont permanents, des hôtels qui sont des contenus qu'on peut préparer.
Donc ça, vous avez du buffer.
Exactement, ouais, qui nous donne une flexibilité. On met en avant aussi pas mal d'UGC. C'est aussi, l'UGC aussi, il ne faut pas oublier, on est une marque qui, quand même, on a la chance d'avoir une mine d'or en termes d'UGC qui est produit par les communautés qui nous suivent et qui viennent dans les parcs. Donc, ça permet aussi, c'est un pilier à part entière de nos différentes lignes éditoriales. Donc, ça, c'est un contenu aussi qu'on source et qu'on planifie dans le temps. Et puis après, voilà, tous les temps forts effectivement qui sont également planifiés, et ensuite ça nous permet, toute cette organisation nous permet aussi d'avoir on va dire une flexibilité sur de la trend qu'on aurait spoté, des choses un peu plus imprévues qui nous permettent d'avoir une agilité, de pouvoir poster dans ces contenus qui sont dans des temps raisonnables.
C'est sport. Hein. Là, vous savez, hein, vous qui écoutez, là, vous savez que tout ça, c'est sport. Hein. Je vois aussi, notamment sur votre compte Instagram, aussi sur TikTok, hein, du contenu visiblement américain, en tout cas US, anglophone, clairement. Des bandes annonces, des micro-séquences doublées, etc. Est-ce que ça, c'est des contenus qui sont fournis directement par Disney?
C'est clairement pas une grosse partie de notre ligne éditoriale, mais forcément, on fait partie de la Walt Disney Company, donc on est là aussi pour soutenir les grands lancements de l'entreprise. Donc là dernièrement, par exemple, effectivement, on a relayé la sortie de Mandalorian, de la nouvelle saison de Mandalorian, mais oui, ça fait partie également d'un de nos piliers de contenu.
Ouais, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, travailler pour Disneyland Paris, c'est aussi savoir travailler dans le monde complexe des franchises, hein, parce qu'il y en a un certain nombre autour de Disney. J'en cite Star Wars, Pixar,
Marvel,
voilà, etc. Des énormes franchises. Et justement, alors moi c'est parce que là, tu as des communautés au sein de tes communautés. Ça doit être complexe aussi à gérer, parce que on a survolé le sujet des personas, mais au milieu de ces personas, bah, t'as les passionnés et t'as les passionnés de franchise. Ouais. Parce qu'évidemment, la petite famille, monsieur, madame, tout le monde qui va à Disneyland Paris, c'est pas le même persona qu'un passionné de Star Wars. Comment est-ce que vous adressez, est-ce que vous donnez une volumétrie de contenu dédié à telle ou telle communauté? Comment ça marche?
On se doit vraiment à partir du moment où on va parler, voilà, de nos franchises, Marvel, Star Wars, on se doit vraiment d'être, encore une fois, dans l'histoire. Et du coup, d'apporter que pour nos visiteurs qui viennent visiter Disneyland Paris de façon très classique, on puisse raconter une histoire qui soit fidèle à ce que Disneyland Paris, on est là où les histoires Disney et des autres franchises prennent vie. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et quand on arrive à parler à la fois à nos visiteurs occasionnels et à nos fans de nos différentes franchises sur des contenus, bah c'est là où on a gagné, en fait.
Ouais. Et alors, justement, j'aimerais qu'on parle des communautés autour de Disneyland Paris, parce que c'est quand même faramineux. On va commencer par l'angle de l'engagement. La volumétrie de commentaires sur les contenus, elle est impressionnante. Allez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux de Disneyland Paris, vous allez halluciner, il y a du monde. Je suis encore plus impressionné par le fait que vous répondiez, alors on va pas dire à tout le monde, mais en tout cas beaucoup. Comment est-ce que sont gérés ces commentaires, ces conversations au cœur des plateformes?
On a beaucoup de commentaires, et je voulais rajouter aussi qu'on a quand même une grande proportion de commentaires positifs, ce qui est quand même...
Totalement, enfin, voilà, c'est ultra bienveillant.
Il faut le notifier. Après, effectivement, on va essayer de faire du community management sur les posts. Donc, on a notre centre de contact qui nous aide sur la partie community management pour répondre à des questions vraiment d'ordre très pratique sur les visites dans les parcs. Et après, de notre côté, on va prendre aussi la parole pour faire du community management un peu plus, on va dire, communautaire, où on va interagir. On essaie de le faire, notamment sur TikTok, on essaie de pousser le curseur un peu plus loin. Provoquer un peu plus d'interaction en commentaire avec nos utilisateurs. Ouais.
J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en MP, hein, parce que là on voit que les commentaires, ça doit être farmineux.
Et là-dessus, effectivement, il y a une grosse partie gérée par notre centre de contact qui va assurer, voilà, enfin, les réponses à des questions vraiment purement pratico-pratiques.
Ouais. Donc là, c'est bien ça. On va dire, sont scindées les conversations techniques, individuelles, à quelle heure ouvre telle attraction, ou j'ai un problème avec ma réservation, peut-être. Et puis, les questions plus conversationnelles et communautaires. Ok. Est-ce que vous avez, au milieu de ces communautés très engagées, un programme de customer advocacy? Un endroit où vos communautés les plus engagées, vous pouvez les rassembler?
Alors, on a plusieurs communautés. On a déjà nos communautés passe annuelles qui sont quand même, nos communautés qui sont plus engagées avec la marque.
Donc, ça, passe annuel, ce sont des gens qui ont un passe
à l'année.
À l'année à Disneyland Paris.
À Disneyland Paris, voilà, où du coup, ils ont vraiment des canaux social media dédiés. Donc, un compte Instagram passe annuel, ainsi que des groupes Facebook, où on va prendre la parole de façon un peu plus différente, un peu plus précise sur l'actualité des parcs, on va essayer de les mettre vraiment en avant, puisque c'est la communauté, voilà, qui fait vivre aussi la magie des parcs. Donc où on va vraiment aussi beaucoup faire pas mal du GC, faire du regram, de posts, de stories.
Eux sont des advocates aussi, j'imagine, hein, parce qu'ils
font beaucoup qui viennent régulièrement et qui produisent beaucoup de contenu.
Du bon contenu.
Ouais. Après, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou mauvais contenu. On essaye d'avoir de régrammer les contenus qui soient les plus organiques possibles et qui soient, voilà. Enfin, on a la chance quand même d'avoir une mine d'or en termes de création de contenu par nos communautés, et on essaye de l'exploiter.
Donc là, tu as tes passes annuelles, on va dire. Et puis, comment est-ce que vous faites pour identifier au cœur des conversations, autour de vos plateformes, les fans hardcore, hein, de Disneyland Paris, voire des univers Disney, et puis le visiteur plus lambda? Parce que forcément, tu leur donnes pas la même chose, y compris dans les conversations. Est-ce que vous avez développé des stratégies là-dessus? Ou est-ce que vous avez peut-être un social CRM, un truc plus poussé qui vous permet d'avoir les historiques de conversation, etc.
Après, sur notre stratégie éditoriale, on essaye vraiment de... on va avoir des stratégies éditoriales qui vont être différentes si on s'adresse à nos canaux principaux, donc notre compte Disneyland Paris, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. On va vraiment avoir une stratégie éditoriale qui va être différente de la stratégie éditoriale qu'on va faire sur nos communautés pass annuelles, où on sait que de nature on va avoir des profils et des communautés qui vont être plus engagées, et du coup ça se traduit aussi de la façon dans laquelle on va produire les contenus. On va avoir des contenus qui vont être plus détaillés, on va faire plus de behind the scenes par exemple. Ce type de contenu, on va plus mettre en avant les cast members qui sont les employés Disney, puisqu'on sait que ça plaît aussi beaucoup aux
peut-être
communautés.
Peut-être qu'avec le temps, ils entretiennent une relation.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup aussi d'interactions quand même superbes qui se passent entre eux. À force, voilà, ils connaissent les employés. Enfin, voilà, il y a tout un plein de choses qui se fait. D'ailleurs, c'était la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a fait pour la journée du compliment. On a fait, on essaye vraiment d'interagir avec les communautés. On leur a demandé, s'ils pouvaient nous expliquer une interaction, une belle interaction qu'ils ont vécue avec un cast member à Disneyland Paris. Donc, on a fait ça en story. Donc, on a fait cette mécanique en story. On leur a demandé. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. On a ensuite synthétisé ça. En faisant du repost, et on a fait un repost en story. Mais également, on a fait un beau carrousel, où on a fait des mises en avant de quotes super sympas de nos communautés qui ont vécu des moments forts avec des cast members à Disneyland Paris. Voilà, c'est des mécaniques qu'on fait qui sont vraiment intéressantes quand on a des communautés qui sont engagées comme celle-ci.
Moi, techniquement, je me dis, il doit y avoir moyen, vous qui avez un pôle social et un pôle CRM, de plugger ces deux choses-là. Est-ce que vous avez fait des recherches un peu techniques pour, parce que évidemment, tu vois, ces advocates de marque très forts, t'as envie de connaître à quel niveau de profondeur de relation tu es avec eux, de savoir peut-être les identifier en mailing, ouais, et par différents canaux.
On n'a pas forcément fait ce travail. Après, on distingue également les fans qui ont des communautés qui sont vraiment, enfin, qui ont des communautés Disney, et donc
qui sont des créateurs de contenu,
avec des communautés, et ces fans-là sont traités dans un autre département de façon spécifique. Voilà, où il y a un programme Insiders qui permet d'accompagner en fait ces créateurs de contenu. Plus poussée avec la marque, puisqu'ils sont des relais auprès des communautés Disney.
Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on bascule du côté de TikTok. Oui. Énorme carton pour Disneyland Paris. 712 000 abonnés sur TikTok. Vous vous êtes lancé en octobre 2021. Ouais. Et clairement, ça donne l'impression, en tout cas, vous avez craqué l'algo de TikTok. C'est quoi, toi, aujourd'hui, tes enseignements sur cette plateforme qui est encore neuve, qui est encore fraîche? Beaucoup d'annonceurs, de marques hésitent à y aller. Vous y êtes maintenant et vous y êtes en force. Qu'est-ce que t'en tires comme enseignement?
Déjà, TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme, il fait pas de cadeaux. Donc, on a beau s'appeler Disneyland Paris, c'est pas parce qu'on s'appelle Disneyland Paris et qu'on a une grosse communauté que l'algorithme va nous privilégier et va pousser nos contenus.
Donc tu veux dire que tu as encore des vidéos où c'est dur et ça sort pas.
Effectivement, on peut avoir des intuitions, on se dit ça va marcher, et en fait non, ça ne marche pas. Sur TikTok, c'est vraiment le TikTok nous a poussé vraiment à revoir un peu la face, enfin vraiment remettre à plat la façon dont on produisait du contenu notamment vertical pour nos réseaux. Et on a vraiment fait un step, enfin ce qui nous a vraiment servi sur TikTok, c'est vraiment faire un deep dive sur la plateforme, de plonger dans la plateforme et de se nourrir vraiment de ce que nos communautés consomment, et de se dire comment nous, en Disneyland Paris, plutôt que une vidéo du château feu d'artifice, non, en fait il faut qu'on fonctionne différemment. Donc comment l'incarnation, ça a été un vrai sujet aussi, comment on incarne nos contenus, puisque TikTok, on sait que l'incarnation elle est clé. Donc comment on va mettre en avant les visiteurs, les employés du parc, les contenus behind the scene aussi, on a vraiment beaucoup développé les contenus behind the scene, comment on va rendre c'était vraiment la clé, c'est produire du contenu qui soit divertissant et qui serve notre marque. Donc c'était vraiment une gymnastique nouvelle, et on a appris au fil du temps. On s'est pas non plus lancé n'importe comment. On a vraiment bien fait une plongée dans la plateforme. On s'est fait
Vous avez pris le temps de bien y aller.
On a pris le temps effectivement de bien y aller avec. Ouais. Et les résultats aujourd'hui, on est quand même fiers du compte aujourd'hui. En gardant un rythme de publication qui est assez fort, hein, entre 4 et 5 contenus par semaine. Donc, c'est
très soutenu. Est-ce que ça, c'est une des clés, algorithmiquement, d'être présent 4 à 5 fois par semaine?
Alors, personne connaît la recette magique de l'algorithme TikTok, mais oui, ça fait partie d'un des leviers qui permettent aussi à l'algorithme et de dire que on est une marque qui tient la route sur TikTok. Ah,
qui tient sacrément la route. Deuxième marque française la plus suivie sur TikTok. C'est impressionnant. Je trouve très intéressant parce que tu as dit en point de départ que TikTok, ça avait été un point de bascule aussi dans votre production de contenu. Ouais. 9/16e, vertical. Est-ce vraiment que tout avait un peu changé au moment où vous aviez décidé
On a appris, on va dire, à retourner l'objectif. C'est-à-dire que avant on était vraiment sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, très axé produits, donc les parcs, les spectacles, nos saisons. On a vraiment essayé de tourner l'objectif et se dire comment on pouvait parler un peu plus des visiteurs, des employés qui font vivre la magie au quotidien, d'être un peu plus en mode behind the scene aussi, avoir du contenu qui soit un petit peu moins léché, beaucoup plus authentique. Ouais. Donc tout ça a été vraiment une nouvelle gymnastique qu'on a mis en place et qui a été successful et du coup base de ce succès on insuffle aussi du coup en Instagram Reels et aussi
oui,
en,
c'est
en
ça,
shorts
bien sûr,
la partie production de vidéos verticales, on maximise aussi la diffusion au travers des nouveaux formats.
Et on est d'accord, pas de préjudice notable là-dessus de pouvoir recycler des contenus TikTok sur Instagram ou sur YouTube.
À partir du moment où avec le temps, on sait qu'il y a des typologies de vidéos qui vont plus fonctionner sur TikTok que sur Reels et inversement. Mais on fait pas de la duplication de contenu pur, puisque on va vraiment diffuser une vidéo, mais après on va rajouter tout ce qui va être la partie sous-titrage, sur la partie aussi code de la plateforme on essaye d'être le plus natif possible et garder les codes des plateformes, donc on est en plus sur quelque chose d'hybride que du copier-coller.
Allez, retour TikTok, est-ce que vous utilisez les trends pour ajouter évidemment de la viralité à vos contenus? Quel a été là-dessus le parti pris de Disneyland Paris?
Alors les trends, oui, c'est un vrai sujet. On sait que c'est on va dire un facteur clé de succès de la plateforme sur TikTok. Donc on les suit de très près, ça c'est sûr. Et après le parti pris qu'on a, c'est en tant que marque, je trouve que c'est dupliquer bêtement une trend. On est noyé dans la masse et pour moi ça a pas grand intérêt. On a quand même la chance à Disneyland Paris, c'est d'avoir beaucoup d'histoires à raconter et faire la différence, c'est s'approprier une trend et y ajouter son histoire, son ADN de marque. Et c'est là qu'on arrive, pour moi, à se différencier et à sortir du lot et à avoir des performances qui soient top.
Peut-être que vous avez l'opportunité à créer vos propres trends, hein, quand tu commences aussi à avoir des audiences pareilles. Il y a peut-être ça. Vous avez essayé des choses aussi de ce côté-là avec des challenges, sortis de chez vous?
Pour le lancement du 30e anniversaire, en mars 2022, on a lancé un TikTok challenge où du coup on a poussé les choses assez loin puisque dans le cadre des festivités, on a un nouveau spectacle qui est joué plusieurs fois quotidiennement dans les parcs et en fait on a travaillé en amont avec le show directeur du spectacle pour créer une choré TikTok, donc qui serait le TikTok Challenge qu'on a lancé dans le cadre des festivités.
Donc qui est intégré au spectacle.
Exactement. Ah, okay, donc le TikTok Challenge a été lancé en amont du 30e anniversaire. Donc on a commencé à parler fortement du 30e anniversaire. Et donc toutes les communautés qui ont participé à ce challenge, une fois qu'elles viennent dans le parc, elles peuvent reproduire la choré puisque cette choré a été intégrée pleinement au spectacle et ça c'est quand même en termes de synergie
très intéressant. Et puis alors quand on parle de trends, moi j'ai envie de parler de son aussi. Et là la gestion des sons c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand on est une marque parce qu'il y a évidemment des enjeux légaux. Comment est-ce que vous vous prenez ça en compte côté Disneyland Paris? Est-ce que vous avez décidé de faire comme un peu tout le monde, dire on s'en fout tant qu'on se fait pas taper sur les doigts, ou est-ce que vous êtes en prudence?
On est extrêmement rigoureux. Donc, à savoir que par rapport effectivement à toutes les marques qu'on bench, on a vraiment pour parti pris d'utiliser uniquement nos sons originaux. Donc nos créations originales Disneyland Paris, et également voilà, quand ça fait sens, utiliser des musiques Disney. Mais en aucun cas on va mettre en avant, on va réutiliser des sons de traîne de la bibliothèque TikTok. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisqu'en fait c'est dénaturer notre histoire. Donc en fait voilà, si notre force c'est de pouvoir utiliser nos sons et pouvoir raconter des histoires, bah c'est et être performant, c'est encore mieux.
Est-ce que vous avez eu des sons à vous qui ont viralisé et qui ont derrière généré du contenu en ricochet?
Alors on a alors viralisé, le terme est peut-être un peu fort, mais effectivement on a des sons notamment de TikTok qui ont été de nos TikTok qui ont été, où on a fait des créations originales avec par exemple des voix de personnages,
ouais,
des bandes musicales du parc qui ont été réutilisées pour de l'UGC, notamment sur des voilà des trip reports, des récaps de journée. On arrive à identifier des sons qui fonctionnent plus que d'autres en réutilisation, et on aimerait pousser le curseur un peu plus loin, puisqu'on aimerait créer des sons vraiment en se disant avec justement ce potentiel de réutilisation,
ouais, c'est-à-dire des sons situationnels.
On veut plus, ouais, que ce soit une coïncidence en se disant tiens, ce son a été réutilisé. On veut provoquer en fait cette réutilisation. Donc c'est
ils sont déjà dans le turfu, Disney. Ouais. Enfin, ils ont compris qu'il y avait quelque chose, ouais, qui jouait dans l'algo là au niveau des sons. Et puis en plus vous avez la chance, je dirais, d'avoir accès à cette base de ressources sons, ouais, puissantes et puis très bien identifiées. Bon, il faut aller jeter un coup d'œil, hein, ce qu'ils font du côté de TikTok. On fait que un modeste tour de la question, mais il y a beaucoup de choses à aller sur lesquelles s'inspirer. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu d'Instagram. Disneyland Paris sur Instagram, 2,6 millions de followers tout de même. Bravo, messieurs, dames. J'imagine que là aussi, il y a des tonnes d'opportunités UGC. C'est quoi votre stratégie de ce côté-là? Alors, évidemment, tu nous as parlé des passes annuelles, des advocates qui, eux, sont tout acquis à la marque. Quid du visiteur passager? Comment est-ce que vous intégrez ça? Est-ce qu'il y a des dispositifs IRL qui permettent de générer de l'UGC, ou est-ce que juste le décor du parc est juste ton meilleur décor?
À chaque saison sur Instagram, on a des filtres. On a des filtres, on a également des stickers qu'on va pouvoir retrouver pour pouvoir apporter une petite touche de magie en plus.
Donc ça, c'est quoi? C'est des Giphy, d'accord. Okay.
Exactement, voilà.
Très bien.
On n'a pas parlé de Snap, mais sur Snap, on a également des filtres géolocalisés,
ouais,
voilà, qui nous permettent de rajouter encore une fois une petite touche de magie. Et pendant plusieurs années, on a aussi fait des mécaniques in-park où on avait un écran dans les Walt Disney Studios, donc dans le deuxième parc, où on invitait les personnes sur place en fait à utiliser un hashtag et en nous mentionnant sur Insta pour être rediffusé en direct. Donc en fait, on avait
une espèce de social
feed,
wall un peu,
ouais, effectivement, ouais, okay. Voilà, pour stimuler, on va dire, la production du GC dans les parcs.
Tu sais, ce sujet du lien entre social media et IRL, c'est un sujet qui, ramené à des marques plus modestes, est vraiment clé. Hein, quand, ouais, t'as un petit point de vente, ou quand t'as un restaurant, etc., t'essayes de trouver ton décor instagrammable ou ton astuce. Ça serait quoi pour toi le meilleur tips là de Disneyland Paris à l'attention des plus petits? Qu'est-ce qu'il y a comme astuce qu'on peut mettre en place assez facilement qui permette de faire ce lien, de générer de l'UGC et de gagner sur son lieu physique pour son social?
Oui, bah ça serait de stimuler de façon la plus intelligente, on va dire, la production de contenu. Après, dans les parcs, voilà, on a
il y a de la matière.
Il y a de la matière.
Il y a beaucoup d'options.
Voilà. Il y a beaucoup d'options. Donc c'est cette chance. Après, c'est de le faire, voilà, de tous les supports qui peuvent être donnés sur une marque pour pouvoir pousser la création du GC. Ça va jusque je pense notamment à Avengers Campus, lorsqu'on a ouvert Avengers Campus, il y a toute une gamme de merchandising sur l'étiquette, par exemple, même sur, on peut parler du merchandising sur une étiquette de suite. On avait sur l'étiquette un code Instagram qui permettait en fait d'avoir accès à un filtre, voilà, qui était en rapport avec l'attraction et le merch porté. Donc voilà, il y a plein de on sous-estime un peu tout ce qu'il y a autour de nous, mais en tant que marque, on peut avoir plein d'opportunités de pouvoir stimuler en fait le.
C'est UGC. Quoi le carton plein UGC? C'est quoi? C'est le château qu'on voit
forcément,
le plus.
Forcément, ouais, ouais. C'est un des endroits les plus photographiés en Europe, ouais.
Les plus iconiques. Ouais. Alors, carrément en Europe, c'est vrai. Ouais, de suite, vous avez
on
des
est data. La première destination touristique Incroyable. En Europe, donc ouais. Et oui, ça reste effectivement un incontournable. Ouais.
Incroyable. Allez, je vais quelques petites questions pour finir et après je vais te laisser. Je suis en train de le cuisiner là. Attention, il boit gorgée d'eau sur gorgée d'eau.
Tout va bien.
C'est quoi aujourd'hui vos KPI chez Disneyland Paris?
En organique, on va vraiment monitorer l'engagement et le reach de nos publications. C'est vraiment les deux KPI qu'on mesure.
Noto. Voilà. Engagement, l'essence même du social media. Pas trop de sujets autour de l'acquise, etc. Ça, c'est autre chose, c'est une autre dynamique chez vous.
Après, on va plus le jouer sur des campagnes social media, mais vraiment en organique. Après, effectivement, on va pousser nos temps forts, on va pousser notre actualité dans le but forcément de stimuler la visite dans les parcs, mais de façon tout à fait organique, voilà. Essaye d'avoir parce qu'on sait c'est ce qui marche sur les réseaux. On veut en tout cas en organique, on se doit d'avoir des codes qui respectent
bien sûr. Est-ce que vous faites challenger un petit peu, parce que j'imagine que là aussi les tableaux de bord sont gigantissimes et ils sont comparés bien sûr, les KPI social media aux autres KPI digitaux notamment. Comment est-ce que vous croisez, petite question un peu experte, mais comment est-ce que vous croisez vos KPI de noto social media pur et puis peut-être de publicitaire? Est-ce que vous parlez d'impression pour trouver un point d'équilibre? Est-ce que toi d'un côté tu arrives avec ta portée et puis t'as la dimension SMA où ils disent ouais mais la portée c'est pas le bon indicateur? Comment vous marchez?
On est vraiment, on va dire, on est en mode écosystème. Je vais être honnête, on se compare pas forcément, on compare pas ce qui est pas comparable, quoi. On est vraiment, on monitor nos KPI dans le temps, voilà, et on va vraiment regarder voilà le reach, aussi la tonalité des commentaires, parce que c'est quand même important, hein, quand on a des gens qui disent ah bah, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, voilà, c'est du verbatim qui mettent de l'eau au moulin, qui nous disent bah en fait
vous regardez le quali par-dessus le quanti.
Exactement, ouais, c'est super important, hein, parce qu'on peut avoir de l'engagement, mais si l'engagement derrière il est négatif, enfin, ça va pas apporter ça n'apporte pas de l'eau au moulin, quoi.
Allez, du coup, j'ai bien envie de te poser l'ultime question redoutée.
Je m'y attends.
La question piège. C'est quoi le ROI du social media, mon cher ami, ce matin? Là, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que la réponse, tu l'as à portée de main, là. Qu'est-ce que c'est le ROI du social media? Je dis question piège parce qu'on nous la pose tellement. En faisant le chemin vers le studio ensemble tout à l'heure, on rigolait là-dessus. C'est vrai que c'est la question qu'on nous pose systématiquement, qu'on est acteur. Du web social, oui, mais c'est quoi le ROI? Ouais. Je te pose la question.
Alors forcément, je ne vais pas te donner une réponse toute faite, tu t'en doutes, mais sur les campagnes social media, le ROI, il est facile à trouver. Sur l'organique, c'est plus compliqué. Enfin, toutes les marques le savent. Encore une fois, ce qu'on va monitorer, c'est vraiment l'engagement de nos communautés sur le long terme, donc avec le reach. Et c'est encore une fois, dans les verbatims, dans les commentaires, les tonalités de commentaires, plus on a d'engagement, plus on a d'engagement positif, c'est de se dire, on arrive en fait par le biais de l'organique à stimuler, on va dire à engager nos communautés qui vont in fine, du coup, peut-être revenir à Disneyland Paris plutôt que prévu. Puisque en fait, on sera resté dans un coin de leur tête au travers de contenu qui est engageant et inspirant. Donc, c'est pas voilà, je fais des petits
non pour moi c'est très clair. C'est merci très clair. Sébastien, énorme merci à toi, échange passionnant. Je suis persuadé que cet entretien vous aura appris plein de trucs sur Disneyland Paris, sur les coulisses de leur social media. Si nos auditrices auditeurs veulent échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Sur LinkedIn
Sébastien voilà. Tunès, ouais, sur LinkedIn, ouais, ok, voilà. C'est le bon endroit, ils viennent te faire coucou de notre part, et puis après, voilà. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Disneyland Paris,
voilà, évidemment. N'hésitez pas à regarder nos contenus. J'espère qu'ils pourront vous, vous inspirer.
Merci à toi, merci beaucoup. Tu sais que t'es le bienvenu quand tu
merci.
Veux.
Merci
on, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer. Merci à vous tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous le partager avec une pote, avec un pote. Vous connaissez le principe. Et puis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Un énorme merci à vous. N'hésitez pas à vous balancer les 5 étoiles avec un petit commentaire. Voilà, bon, vous connaissez le principe. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye.